en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Gloria patri et filio et spiritui sancto. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Les générations de fidèles, laïques ou religieux, qui, depuis plus d'un millénaire, psalmodièrent plusieurs fois par jour cette acclamation terminale des rites catholiques, ont-ils médité sur le fait qu'elle impliquait deux impénétrables mystères, et des mystères classés comme tels, celui de la Trinité, où trois est identique à un, et celui de l'éternité, où l'on se passe de l'écoulement du temps. Or, la phrase qui suit cette louange, « Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum », comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, déploie tout au contraire le temps et son écoulement dans ce que nous expérimentons de manière ordinaire, quotidienne, usuelle, historique, depuis son début vers la suite indéfinie et à jamais. Voici donc deux phrases aussi distinctes, aussi séparées, aussi contradictoires que transcendance et immanence, puisque de ces deux acclamations, l'une chante l'absence de temps, tandis que l'autre dit en l'intégrant la totalité de cette durée. Or, ces deux acclamations contradictoires se conjuguent, si j'ose dire, par une conjonction, sicut en latin et comme en langue française. Comment est-il possible d'associer par cette simple conjonction le mystère et l'expérience vécue, l'éternel et le mondial, la transcendance et l'immanence, la théologie et l'histoire? Comment cela peut-il se faire? Tout simplement. De même que Dieu existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la durée dans la deuxième acclamation se rythme en trois actes, en trois âges, en trois ères, le commencement, maintenant et toujours. Dès lors, et comme en parallèle, chaque personne de la Trinité marquerait, signerait, gouvernerait une ère du temps. Et donc nous pourrions aligner verticalement, si j'ose dire, l'âge du Père, l'âge du Fils et celui de l'Esprit. Voici donc en termes simplissimes s'exprime le schéma dessiné naguère par Joachim de Flore, ce franciscain du XIe siècle, dont, selon Henri de Lubac et de toute évidence, le dynamisme ne cessa d'inspirer les philosophes de l'histoire au cours du temps. Chez lui, comme chez tous les successeurs, un mouvement irrésistible, parti du passé, se dirige aujourd'hui vers un troisième âge à venir, celui de l'esprit. Et comme ce dernier se distingue évidemment de l'âge du Fils, il faut bien que l'évangile du Christ s'arrête et laisse place à un autre annonce que Joachim appellera l'évangile éternel, celui justement de l'Esprit, mais soudain qui sera revendiqué par la suite par la raison laïque, par l'athéisme, par la science telle qu'elle éclate à partir au moins de l'âge classique. Ainsi, Joachim doit-il assumer la pérennité des Lumières, Condorcet en tête, plus tous les scientismes, d'Auguste Comte jusqu'au marxisme. Chrétien à l'origine, le joachimisme de Joachim de Flore va converger vers ce que le père de Lubac va appeler le drame de l'humanisme athée. Un moment. Autant l'intelligence peut comprendre à la rigueur les relations entre le Père et le Fils, c'est-à-dire entre les deux premières personnes de la Trinité, autant la troisième pose des problèmes à la lettre insoluble. Elle est dite procédée du Père et du Fils, or cette procession, à la manière plotinienne, reste si difficile à saisir que mille débats théologiques, dont celui du célèbre Filioque, aboutirent jadis à des schismes qui déchirèrent l'Europe et dont les blessures demeurent jusqu'à nos jours. Or, il se trouve que la seconde partie du Gloria, de cette acclamation, se divise aussi mal en trois termes que la première. Car enfin, ce « toujours » et « dans les siècles des siècles » couvre tous les temps, y compris le commencement et maintenant. Et donc, la durée décrite dans la seconde partie de l'acclamation ne se déploie pas de façon exactement trinitaire, car en effet, toujours et dans les siècles des siècles, reflue sur le maintenant et sur le commencement. Du coup, Henri de Lubac est assez fondé de distinguer ce qu'il appelle le joachimisme, c'est-à-dire le schéma trinitaire pour la philosophie de l'histoire, et une sorte de semi-joachimisme qui rythmerait au contraire la durée de l'histoire en deux parties et qui sauvegarderait le rôle du Fils et qui permettrait tout à coup de rester dans les normes canoniques, voire augustiniennes. Du coup, selon Henri de Lubac, l'évangile du Christ ne cessera jamais. Vous concevez alors que le choix entre ces deux options, bien distinguées par Henri de Lubac, le joachimisme et le semi-joachimisme, va distinguer soudain les croyants des athées. Et cette option, effectivement, que nous rencontrons aujourd'hui dans l'âge contemporain. Je m'arrête. Et je considère que le travail du philosophe consiste à quitter le plus vite possible le commentaire. Et donc, je dois me poser la question aujourd'hui de savoir si ce schème ternaire, tel qu'il est exprimé par ce moine calabré du XIe siècle et tel qu'il retentit selon Henri de Lubac sur la totalité des temps jusqu'à nos jours, si ce schème trinitaire, dis-je, est encore utile maintenant, aujourd'hui, pour comprendre ce qui se passe ici et maintenant pour notre savoir, pour notre existence et pour l'histoire. Je vous invite donc avec moi de considérer à nouveau les trois termes ainsi énoncés. Je considère pour commencer le premier temps, c'est-à-dire initiaux, le commencement. Il se trouve que pour considérer le commencement, un événement nouveau est apparu ce siècle-ci. J'entends presque le début du XXIe siècle et la fin du XXe siècle. Voici environ un quart de siècle, 25 ans, je me trouvais au même endroit que maintenant, devant, comme jeune académicien français, faire un exposé d'histoire des sciences devant toute l'Académie des sciences. Et à cette époque-là, je remerciais tous les académiciens des sciences présents de m'avoir appris tout ce qu'ils m'avaient appris pendant ma vie. Et je conclus en disant qu'au fond, ils ne m'avaient appris qu'une seule chose. C'est que, après un mouvement qui avait commencé à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, les sciences, lentement, puis de plus en plus vite, avaient commencé et réussi à dater leurs objets. Et cette datation des objets des sciences pouvait être déployée de la façon suivante. Les cosmologistes et les astrophysiciens datent le commencement de l'univers à 15 milliards d'années. Les géophysiciens datent le commencement de la planète Terre il y a 4 milliards d'années par accrétion. Les biochimistes datent le commencement de la vie au moment où les premières molécules se mettent à se dupliquer, à 3 milliards 800 millions d'années. Les spécialistes d'histoire naturelle datent le commencement de chaque espèce et parfois leur disparition de façon de plus en plus précise. Quant aux paléoanthropologues, ils datent le commencement de cette espèce qui s'appellera les homininés puis les hominidés, et les préhistoriens datent le commencement d'Homo neanderthalis et d'Homo sapiens. Et par conséquent, pour ce qui concerne le commencement, il est arrivé un événement considérable ce siècle-ci, tout à fait nouveau, qui consiste à dire que nous pouvons connecter la totalité de ces dates l'une à l'autre, alors que cette connexion était extrêmement difficile à faire à la fin du XIXe siècle, et que cette connexion entre les disciplines, d'une part, et entre la datation de leurs objets, d'autre part, donnait naissance à ce que j'ai appelé depuis un grand récit. Et j'ai appelé ce grand récit des commencements. Je l'ai appelé le grand récit, d'abord pour me moquer un peu de mes contemporains qui pensaient que aujourd'hui et l'âge postmoderne se définissait par la fin des grands récits, alors que précisément la science commençait à déployer le grand récit le plus long et le plus démontré de toute l'histoire humaine. Mais d'autre part, je l'ai appelé un grand récit parce qu'il est ponctué d'événements imprévisibles, d'événements imprévus, et conforme à ce qu'on appelle la théorie du chaos, mais dans le sens même d'un récit littéraire coupé de coups de théâtre imprévisibles et qui font bifurquer le récit. Et par conséquent, ce grand récit, je crois qu'il est producteur d'un nouvel humanisme, tout simplement parce que les contemporains ont derrière eux, derrière leurs épaules et derrière leur tête, 15 milliards d'années, alors que nos prédécesseurs avaient derrière le dos entre 10 et 20 000 ans. Et par conséquent, cela bouleverse complètement la première partie de ce schème trinitaire. Alors, allons-nous l'appeler l'âge du Père ? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je peux l'appeler au minimum l'âge du patrimoine, et que ce grand récit comble puissamment les oublis de l'histoire. Car enfin, qu'est-ce que c'est que l'histoire, sinon le déploiement de ce qui se passe depuis l'origine de l'écriture, c'est-à-dire très peu de temps, et que cette histoire-là que nous pratiquons nous-mêmes oublie simplement les peuples sans écriture, ce qui se passait avant l'écriture, ce qui se passait au commencement d'Homo sapiens, ce qui se passait pour la totalité des vivants, la totalité des espèces, la totalité de la Terre et la totalité de l'univers. C'est-à-dire que notre histoire ancienne est simplement définie par cette série d'oublis, et que cet âge du patrimoine, désormais, dit précisément et de façon démontrable et documentée ce que le premier schème de Joachim de Flore appelait l'âge du père. Cet âge du patrimoine est désormais en place, compte tenu des prochaines découvertes de la science, qui peut évidemment le faire encore bifurquer, mais que cet âge est parfaitement en place, et par conséquent, on peut dire que ce qu'on appelle l'âge du commencement est désormais parfaitement en place, alors qu'il ne l'était pas il y a à peine 25 ans. Voilà l'événement nouveau que je veux célébrer et qui nous met en précision devant ce qu'on appelle depuis Joachim de Flore l'âge du père, l'âge au moins du patrimoine. Voici pour la première partie de ce schème trinitaire. Puis-je maintenant examiner la seconde partie, c'est-à-dire maintenant ? Eh bien, je voudrais dire devant tout le monde ce que pour moi signifie ce maintenant. Et je vois dans la salle des gens à peu près de ma génération, et je leur demande de se souvenir simplement de ce maintenant. Je crois que je peux avouer, sans trop d'impudeur, que je suis né en une année où la pyramide des âges était la plus étroite que la France ait jamais connue. Pourquoi ? Parce que tous les pères possibles étaient morts à la guerre de 14 dans cette abominable boucherie. Et ma mère a été la seule à se marier dans son lycée parce qu'il n'y avait pas de mari possible. Et par conséquent, ma jeunesse a été bercée par le souvenir très fort de cette abominable boucherie où sont morts 2500 personnes par jour pendant 50 mois. La mort. Mais mon premier souvenir d'enfance, et je crois qu'il y a devant moi des gens de ma génération, comme j'étais né dans le sud-ouest, j'ai reçu le tsunami des premiers réfugiés de la Révolution espagnole, qui était aussi une abominable boucherie où les rouges et les blancs racontaient les mêmes tortures et les mêmes abominations. La mort. 2 ans après, mon pays recevait les réfugiés de la Blitzkrieg et la Seconde Guerre mondiale était commencée. Et vous le savez, la Seconde Guerre mondiale a été la première dans l'histoire où les hommes ont tué plus d'hommes que les bactéries, les microbes et les micro-organismes. Et si on fait la somme de cette guerre mondiale à procurer, entre les crimes d'État et la guerre, nous avons dépassé la bonne centaine de millions de morts. Donc, la mort. Et par conséquent, ma génération, pendant tout le temps, n'a connu que la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, jusqu'aux guerres coloniales, où, au moment de prendre les armes, nous avons dû la faire. J'ai dû donc faire la guerre d'Algérie et l'expédition de Suez. Et par conséquent, pour moi, le maintenant, c'était l'opérateur historique fondamental, la mort. Et cette fin de siècle, qui a été probablement le siècle le plus abominable de toute l'histoire, nous a fait et m'a fait me retourner sur moi-même pour regarder ce qui s'était passé avant. Parce que cet opérateur de mort, j'imaginais qu'il avait été le moteur de l'histoire, puisque je pouvais entendre, avant la guerre de 14, celle de 70, avec les abominables carnages de la Commune, puis les guerres napoléoniennes, avec des centaines de millions de morts, et puis plus avant, celle du XVIIIe siècle, celle de Louis XIV, et celle de la guerre de Cent Ans, et celle des guerres de religion, et puis ensuite la chanson de Roland, et puis pour commencer, les commentaires de Jules César, qui avait tuer des millions de Gaulois, et puis jusqu'à la guerre de Troie. Et par conséquent, mon considération de l'histoire de maintenant me permettait de comprendre l'histoire comme dirigée par un opérateur principal qui s'appelait la mort. La mort comme moteur de l'histoire. Est-ce que j'étais original en déclarant que la mort était le moteur de l'histoire ? Non, je ne crois pas que j'étais très original, puisque que je sache... Hegel, dont nous avons parlé tout à l'heure, appelait cela le travail du négatif. Et ce travail du négatif, c'est-à-dire le vendredi saint de l'histoire, voilà en termes théologiques que je peux exprimer les choses, que ce vendredi saint de l'histoire, il l'avait fait voir dans l'image de la lutte du maître et de l'esclave, où celui qui gagnait, c'était celui qui regardait de plus près la mort. Et que la mort était donc l'opérateur historique qui me permet de comprendre le temps. Voilà. Voilà, et voilà pour Hegel, mais que je sache plus profondément encore, un certain Charles Darwin avait dit que les espèces et la vie se continuaient par sélection, c'est-à-dire par élection du plus apte, qui était rarissime, parmi un cimetière considérable de gens qui étaient sélectionnés, c'est-à-dire qui mouraient. Et par conséquent, que la mort était non seulement le moteur de la sélection naturelle, mais le moteur de l'histoire. Et voilà. Et par conséquent, pour moi, maintenant, et pour nous, de notre génération, maintenant, cela voulait dire, à partir de notre naissance jusqu'à une certaine date, la reconnaissance que l'opérateur historique fondamental, c'était la mort, et rien que la mort. Et soudain, je continue à réfléchir sur le maintenant du deuxième temps. Et soudain, dans les années 60, après la guerre dite froide, qui avait continué d'ailleurs à amasser des armes de destruction massive qui menaçaient d'avoir devant nous comme fin de l'espèce humaine, l'éradication totale de l'espèce humaine et des blessures définitives faites à la planète, qui était toujours l'opération de mort, bien sûr, et soudain, dans les années 60, un arrêt curieux de cet opérateur-là, puisque depuis lors, nous goûtons 65 ans de paix. 65 ans de paix. C'est-à-dire la fin de la guerre froide, la fin des guerres symétriques. Et je voudrais, lorsque vous rentrerez chez vous, je vous prie, que vous tapiez sur Internet la demande suivante, cause de mortalité dans le monde. Et Internet vous donnera le tableau des chiffres donnés par les institutions internationales, l'OMS, l'ONU, l'UNESCO, etc., les chiffres officiels des causes de mortalité dans le monde. Et aujourd'hui, les causes de mortalité dans le monde, dont les premières sont, vous le savez bien, les maladies tropicales, les maladies infectieuses, etc., le cancer, le tabac, bien sûr, et les accidents de la route. Savez-vous, mesdames, messieurs, que le dernier chiffre sur ce tableau, dans cette classification décroissante des causes de mortalité dans le monde, que le dernier chiffre que le tableau considère comme désormais pratiquement négligeable, sont sous le chapitre violence, guerre, terrorisme. C'est-à-dire sous l'idée que nous sommes en paix en Occident, j'ai cette idée pratiquement imperceptible aujourd'hui que le monde entier est en paix. Que le monde entier est en paix, contrairement à ce que nous disent les médias de tous ordres. Et par conséquent, nous sommes en présence d'une coupure extraordinaire qui me fait comprendre soudain que l'histoire qui s'était développée, selon Hegel ou Darwin, selon l'opérateur de mort, que cette histoire-là était désormais une antiquité terminée. Et qu'aujourd'hui, on peut imaginer non seulement ce fait-là, mais une transformation complète des mentalités. Je me souviens avoir pris l'avion le lendemain du 11 septembre, après l'attentat dont vous vous souvenez. Nous étions assez peu dans l'avion et personne n'a mené pas large. Une amie intelligente dans la Silicon Valley, où j'habite depuis 30 ans ou 40 ans, avait organisé un repas où se trouvaient, disons, 7 nationalités, 6 langues, 3 religions diverses. Le monde, quoi. Un modèle réduit du monde. Et nous ne parlions que de cet attentat. Et soudain, quelqu'un dit, mais voyons, comment se fait-il qu'ils fassent la queue, comme les kamikazes, pour donner leur vie pour des choses pareilles ? Et soudain, je me levais et je dis, mourir pour sa patrie est un si digne sort qu'on briguerait en foule une si belle mort. Et tout le monde se retourne vers moi et me dit, mais qui donc a écrit ces horreurs ? Et je dis, c'est Corneille dans Horace, et nous avons sucé le lait de cette mort-là comme notre idéal. Mais c'est abominable, disait tout le monde. Je dis, non, c'est pas abominable, puisque nous chantions aussi la République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. C'est-à-dire qu'un citoyen, c'était un condamné à mort en puissance, n'est-ce pas ? Et par conséquent, la dérive des mentalités était telle que soudain, cette culture-là devenait incompréhensible. C'est-à-dire cette mort-là devenait incompréhensible. Et par conséquent, quand je parle aujourd'hui de ce renversement est un renversement mort-vie. Et ce renversement mort-vie ne touche pas seulement la géopolitique ou les relations internationales, dans le maintenant, c'est-à-dire la seconde partie du schéma de Joachim de Flore, mais touche aussi nos pratiques quotidiennes. Car enfin, à partir de la Seconde Guerre mondiale, ou plutôt avant la Seconde Guerre mondiale, un médecin, un praticien normal, rencontrait 4 syphilitiques, 4 tuberculeux et 2 autres. Et à partir des années 55-60, il ne restait plus que les 2 autres. C'est-à-dire que soudain, le travail contre la mort, qui était le travail politique par excellence, touchait les métiers, toucher la vie quotidienne. Et soudain, en effet, On vit l'OMS en 1972 éradiquer complètement dans le monde la petite vérole. C'est la première fois dans l'histoire qu'on ne guérissait pas un malade, mais qu'on guérissait une maladie complète, une maladie totalement. Et par conséquent, voyons, quelle est l'originalité profonde de ce temps qui commence dans les années 50, maintenant ? Mais cette originalité, c'est très simple, c'est l'abolition de la peine de mort généralisée. L'abolition de la peine de mort telle que non seulement elle touche le droit ou les condamnations pénales, mais qu'elle touche la constitution des groupes. Tout le monde rit maintenant quand on dit qu'un Français doit vivre pour elle et que pour elle un Français doit mourir, et la peine de mourir avec les soins palliatifs. Par conséquent, aujourd'hui, je trouve, si vous voulez, que... Ah, pardon, c'est que ces deux choses conjuguées, c'est-à-dire la lutte contre la mort côté guerre et la lutte contre la mort côté quotidienne, a donné des résultats tout à fait considérables qui fait que nous vivons une nouvelle humanité. Et cette nouvelle humanité, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. C'est-à-dire, au lieu de mourir à 20, 30, 40 ans, nous mourons désormais à 80 ans, 84 ans, 85 ans, c'est l'espérance de vie de nos compagnes. Que la mortalité infantile a quasi disparu, que la mortalité des femmes en couche a quasi disparu également, qu'il y a une chute statistique de la douleur par les antalgiques et les anesthésiques, et que finalement la démographie mondiale s'est multipliée deux fois par deux pendant le maintenant de ma vie. Quand je suis né et quand vous êtes né, il y avait moins de 2 milliards d'habitants sur la planète, deux fois de 4 fois de 8, il y en a aujourd'hui près de 8 milliards. Et par conséquent, les résultats sont considérables, parfaitement nouveaux, aussi nouveaux que ce que j'ai dit pour le commencement. C'est-à-dire que tout d'un coup, nous avons vécu, non pas un maintenant, mais deux maintenant. Deux maintenant dont la première partie était effectivement vouée à ce que l'histoire que je présume désormais, que je nommerai désormais la seconde antiquité, l'âge de l'histoire... qui avait comme opérateur historique fondamental la mort, et puis maintenant, ce que je pourrais appeler l'échec à la mort. C'est-à-dire que la vie est aujourd'hui l'opérateur principal de notre temps, sans que nous nous en apercevions sans doute. Je veux dire par là, si vous voulez, que la mort a reculé. La mort a reculé collectivement et individuellement. Mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? Non, la mort n'est plus aujourd'hui le moteur de l'histoire, et c'est une nouveauté considérable. Oh, pardon, là où elle règne encore, c'est là où règne un passé révolu. Et ça, c'est le critère fondamental de décision de notre temps. Là où la mort règne comme autrefois, là règne un passé révolu, et là où règne la vie, c'est là notre avenir et notre préoccupation philosophique fondamentale. Par conséquent, je présume qu'après le vendredi saint de l'histoire dont j'ai parlé tout à l'heure, nous vivons aujourd'hui quelque chose que je pourrais appeler, pardonnez-moi, la résurrection. Cela est sans doute une nouveauté telle qu'elle est devenue complètement illisible pour nous. Et je lis encore beaucoup d'articles de spécialistes de sciences politiques qui disent que depuis la fin de la guerre froide, la politique dans le monde est désormais devenue illisible. Et oui, elle est illisible parce que seule la grille de la mort permettait de la lire. Aujourd'hui, la grille de la vie est telle que, en effet, cette nouveauté est telle. Voilà, messieurs et mesdames, les raisons pour lesquelles, depuis récemment et au soir de ma vie, je devins de plus en plus attentif au message de Joachim de Flore, parce que je vois tout à fait clairement devant moi les trois airs qu'il a définis, que je vois dans les sciences, que je vois dans ma vie et que j'ai vécu profondément. Et par conséquent, je peux rassurer les successeurs d'Henri de Lubac en disant qu'en effet, le troisième âge, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas arrivé, n'est pas devant nous, mais est parmi nous. Merci beaucoup.